Non, 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 il ne bloquait pas. Tout de suite, Cyril.
Sud Radio, 18h-20h, Christine Bouillot, Philippe Moïsen.
Une vie en autarcie. Oui, ça existe. Tout ça a existé, ça existe encore d'ailleurs. Hein. On va en parler dans quelques petites secondes.
On peut même parler d'une enfance hors du temps. Et on accueille tout de suite Djala Maria Longa. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir sur Sud Radio.
Avec plaisir.
Vous publiez aux éditions Glénat ce très beau livre, Mon enfance sauvage, un livre dans lequel vous revenez, vous racontez votre enfance dans cette vallée de Massade, c'est en Ariège, avec vos parents, vos frères et sœurs, très loin du monde moderne. J'aimerais que vous expliquiez à nos auditeurs dans quelles conditions vous avez grandi, Djala.
Oui. Alors, il faut savoir que mes parents, ben, tous les deux, ils viennent de la ville. Ils ont grandi comme beaucoup, comme vous et beaucoup de monde. Et ils ont décidé, en fait, de construire une vie totalement parallèle. Ça venait beaucoup de ma mère qui, du jour au lendemain, donc ils sont venus s'installer à Massate, au-dessus, dans une vallée donc reculée. Et là, ils ont eu 8 enfants, dont moi la 4e. Ils ont décidé de vivre sans rien de la société.
Mais qu'est-ce qui les a poussés à aller s'installer comme ça, du jour au lendemain? C'est l'effet mai 68, c'est quoi?
Non, alors voilà, il y a deux points de vue très différents que j'explique bien dans le livre. J'ai un père qui est très... il rêvait de devenir paysan, en fait, le berger dans sa montagne, près de la nature. Et à côté de ça, il a rencontré ma mère, qui, elle, était une rebelle de la société, on va dire. Allemande, elle a fui son pays et elle souhaitait vivre vraiment au cœur de la nature. Par contre, oui, avec une blessure dans le sens où elle a tout rejeté.
Alors, quand vous dites j'ai grandi avec mes frères et sœurs sans rien, on parle bien de pas d'électricité, pas d'eau courante, rien.
Rien. C'est-à-dire, voilà, on avait une maison quand même.
Oui, oui, oui.
Nos lits, à la base, c'était du foin. Donc ça, c'était vraiment dans les premières années, parce que mes parents n'avaient pas d'argent. Il faut savoir que voilà, les poteaux électriques qui étaient à la maison, ils ont été coupés par mon père pour en faire un poulailler. Donc c'est ma mère qui refusait tout confort.
Et qui n'a pas voulu aussi vous envoyer, et ça c'est important, à l'école.
Voilà, tout à fait, tout à fait. Il y avait mon grand frère qui n'a pas la même maman que nous, qui lui a commencé à aller à l'école. Puis après, pour des raisons compliquées, ils l'ont enlevé et par la suite, ben, nous tous, on n'y a pas été.
Donc, tous les enfants n'allaient pas à l'école, qui faisait la classe?
Et c'était notre père, donc il nous prenait, l'hiver, il avait plus le temps. Il nous prenait chacun, un par un, il nous apprenait à lire, écrire, les 4 opérations. Mais sincèrement, après ça, on n'est pas allé plus loin.
De quoi vivez ? Est-ce qu'on vit comme ça ? Comment ça se passe ? On a du mal à imaginer de se couper de tout. Hein. On voit ça dans les émissions de télé-réalité, honnêtement.
Oui.
Ça, c'est de la télé, mais là, c'est la vraie vie. Comment on se nourrit ? Qu'est-ce qu'on fait de ses journées ? Ça se passe comment ?
Ben voilà, nous, on avait, en fait, nos parents, ils avaient une ferme. Du coup, on n'allait pas à l'école, mais sincèrement, on travaillait du matin au soir. Bon, on jouait en travaillant aussi, mais c'était, on avait un planning bien rempli. Dès très jeune, en fait, chacun avait sa petite tâche. Les aînés, bien sûr, les deux aînés, je pense qu'ils ont un petit peu trinqué dans le sens où le quotidien était très lourd parce que bon, faut faire la lessive au lavoir, faut faire à manger sur un feu, donc chercher le bois, tous nos légumes donc proviennent du jardin, la saucisse de nos cochons, le fromage de nos vaches, donc il y avait tout à faire. Donc c'est vrai que le quotidien était très rempli.
Ouais, vous dites, c'est paradoxal, je trouve, c'est étonnant, vous dites que cette vie d'isolement était tout sauf solitaire.
Oui, c'est vrai qu'on avait, on n'était pas solitaire dans le sens où on était 8 enfants. Il y avait quand même du monde qui passait à la maison. Mes parents étaient ouverts, heureusement, parce que sinon je ne pense pas qu'on serait devenu ce qu'on est aujourd'hui. On allait voir nos familles. Il faut savoir que nos deux familles du côté paternel et maternel, ils sont de familles bourgeoises. C'est-à-dire que nous, quand on sortait de notre montagne perdue en fond de vallée, on arrivait de suite dans la famille qui était très aisée. On allait voir les cousins, cousines, etc.
Quel choc !
Pardon ?
Quel choc !
Oui, pour nous, c'était magique, en fait, en quelque sorte, quand on prenait le bain dans une baignoire avec tous ces parfums, alors que chez nous, on se lavait dans une bassine à cochons ou dans le lavoir avec du savon de Marseille, enfin, ça n'avait rien à voir, c'était totalement l'opposé. Et donc, moi, pour ma part, je démangeais tout. Enfin, j'observais tout. Ma grand-mère, ça a été, pour moi, c'était une personne très, 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 comment dire, elle m'a appris beaucoup, beaucoup de choses.
Et vous parliez dans votre livre des gens qui viennent du monde d'en bas. C'est assez surprenant, ça. On a l'impression que c'est une autre planète qu'il y a autour de vous, quoi.
Oui, voilà, exactement. Mais c'est marrant parce que c'est des mots qu'on emploie encore aujourd'hui.
Oui, ceux qui habitent en haut et ceux qui viennent d'en bas.
Oui, alors souvent, c'est marrant, ouais. Et c'est parce qu'on était coupés du monde, sans voiture, on avait une charrette, il fallait marcher. Alors si on allait au village, c'était à plus d'une heure et demie. Si on allait en ville avec la charrette, ça nous durait deux jours. Donc pour nous, on était un petit peu en dehors. Je pense que c'est mes parents, eux, ils avaient fait le rapprochement. Nous, on est nés là-dedans, on est nés comme ça, donc on se posait pas la question. Mais nos parents employaient ces mots-là, parce qu'eux, ils étaient sortis de la ville et qu'ils étaient arrivés dans le monde d'en haut.
On parle bien, ça se passait bien dans les années 80, quand vous parlez de Charlotte, etc. C'est comme ça que vous vivez et vous avez grandi. Alors un jour, évidemment, on devient ado, on doit s'intéresser évidemment à ce qui se passe dans le monde d'en bas. À quel moment on revient dans une certaine normalité, parce que il y en a plusieurs évidemment, hein, non pas que votre vie n'était pas normale, hein, Djalla Maria, mais comment est-ce que vous êtes sortie de là et pourquoi ?
Mais alors moi, depuis toute petite, à partir de l'âge de 4-5 ans, je me posais la question du pourquoi des choses, pourquoi on ne va pas à l'école, pourquoi on est différent, etc. Je n'osais pas poser les questions parce que ma mère, je savais, je la connaissais très bien. Là-dessus, il fallait pas en parler, sinon j'allais la blesser. Pour elle, le seul bonheur, c'était là-haut. Alors que mon père, il tenait pas du tout les mêmes propos, mais bon, il était plus discret. Et donc, doucement, j'ai grandi comme ça jusqu'au jour où j'ai commencé à en faire part, ça débordait. Et là, ma mère, vexée, elle me dit, non, il y a hors de question, si tu pars dans le monde d'en bas, tu ne reviendras jamais plus. Donc moi, j'ai été un petit peu déçue et blessée au départ. Je me suis dit, non, mais avec le caractère que j'avais, je pouvais pas l'entendre. Et du coup, bon, mais il y a eu un beau bras de fer entre elle et moi, jusqu'au jour où à 16 ans, j'ai craqué, quoi, je suis partie. Donc il y a eu une grosse engueulade, etc. J'ai même manqué de respect à mon père, je lui ai rentré dedans. Il a fallu que je pousse vraiment la porte pour partir. Après, je ne savais pas du tout si j'allais réussir. Parce qu'il faut savoir que j'avais un niveau CP. Et du coup, c'est vrai que tout le monde me disait, mais oui, tu veux partir, tu veux voyager, tu veux travailler, mais sans niveau, sans diplôme, tu peux rien faire.
Et ça s'est passé comment dans le monde d'en bas?
Et alors, du coup, j'avais commencé par un apprentissage, je me suis retrouvée au CFA. Et là, sincèrement, en français, en mathématiques, il y avait des matières que j'avais jamais vues même. Absolument pas, mais j'étais complètement perdue. Enfin, alors, là, c'est pas mon truc. Et du coup, j'ai arrêté, je suis partie en ville. Et petit à petit, comme ça, je me suis formée dans les formations. J'ai été très curieuse, j'avais vraiment de l'ambition, j'avais envie d'essayer. Bon, j'ai dû tricher pour rentrer dans des formations à cause de mon niveau qui... Simplement, j'avais pas de niveau.
Et vous dites, écrire a toujours été un rêve. C'est justement ça. Et aujourd'hui, vous publiez un livre.
C'est vrai que petite, dans mes noisetiers, je rêvais d'écrire. Alors, c'est marrant parce que la semaine dernière, j'ai retrouvé un carton et j'ai retrouvé je ne sais combien de lettres. En fait, j'écrivais à tous ceux qui passaient dans la vallée, que ce soit des jeunes. Il y en avait une particulièrement qui m'a vraiment motivée à écrire, à Sandrine. Et donc, à chaque fois, je répondais, j'écrivais, j'adorais ça. C'est vrai que c'était un milieu qui m'attirait, donc je rêvais d'écrire un livre, mais pour moi, c'était invraisemblable.
Et quelle a été la route de vos frères et sœurs? Ils sont partis aussi dans le monde d'en bas ou non?
Voilà, tout à fait. Alors, je l'explique bien là-dedans, parce que jusqu'à moi, d'abord, j'étais la première à partir. Et donc, par la suite, il y en a eu qui ont pris l'exemple, qui se sont envolés à leur manière aussi. Donc, dans le livre, j'en parle bien, je trace vraiment le parcours de chacun. On est tous très différents. Il y en a presque qui... Enfin, il y a une des sœurs qui renierait le passé. Tant c'était... alors que dans le livre, voilà, on aurait cru qu'elle suivait mes parents à la lettre, que c'était sa vie, etc., jusqu'au jour où ça a explosé. Et donc, voilà, il y a vraiment... chaque caractère de personne est différent et bien défini. Et il y en a encore, malgré tout, qui vivent dans la vallée de mes parents.
Oui, à la vallée de Massat, il y a encore d'autres familles qui ont fait ce choix-là, mais pas aussi rude, hein, sans eau, sans électricité.
J'en ai jamais rencontré qui repoussait tout comme
absolument, ça. Absolument tout. Est-ce que vous en voulez à vos parents?
Absolument pas. Parce que c'est vrai que même s'ils ont repoussé, même s'ils ont choisi une vie en autarcie, complètement isolée comme ça, il y avait vachement, les valeurs étaient mises, il y avait de l'amour, il y avait un échange, un partage, une complicité qui fait qu'on a tous la tête sur les épaules, on s'en sort tous très bien et on est très unis.
Et ça, c'est en général pour des parents une grande victoire.
Ouais,
et voilà, exactement.
Ouais, et pas question de vous parler de hippie, hein.
Ça, c'est, vous l'avez bien compris, c'est à bannir.
Hein, c'est pas du tout ça.
Par contre, parce que vous savez, quand on grandit, alors on a eu ces étiquettes-là, et moi, j'aime pas les étiquettes d'abord. Ouais. Et nos parents étaient tellement différents. Oui, ma mère était une hippie, je peux pas le cacher. Aujourd'hui, je vis bien avec ça. Elle revendiquait le fait d'être hippie. Et mon père, pas du tout. Lui, surtout pas, il fallait pas qu'on le qualifie d'hippie ou quoi que ce soit. Mmh. Et c'est vrai que je comprends les deux visions des choses. Et moi, en tant qu'enfant, c'est vrai que j'avais du mal à vivre avec ça.
Et est-ce une façon de boucler la boucle ? On revient toujours de là où on est parti. Vous êtes revenu vivre non loin de votre lieu, de votre enfance.
Oui, c'est extraordinaire. Ouais. Et aujourd'hui, en tant que maman, sincèrement, j'aurais jamais pensé que je serais revenue. Et en tant que maman, ici, dans le cadre, je suis revenue donc à 7 km de chez mes parents. C'est pas très loin, au village. Et j'en suis très comblée.
Lisez, procurez-vous « Mon enfant sauvage » de Djala Maria Longa. C'est paru aux éditions Glénat. C'est sans doute le premier témoignage comme ça que l'on peut lire sur ses vies, ses enfances, comme on dit hors du temps, une enfance sauvage dans cette vallée de l'Ariège. On était ravis, Djala Maria, de vous avoir ce soir sur l'antenne de Sud Radio dans le 18-20.
Merci, à bientôt. Elle est déjà partie. Merci beaucoup. On parle dans un instant de Dalida. Oui, ça fait 25 ans déjà que Dalida nous a quittés. Eh bien, on en parle avec deux invités prestigieux.
Christine Bouillot, Philippe Moïsen, sur Sud Radio.
Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant.
Le jour où je m'en irai, je le ferai à ma manière, chantait-elle. Eh bien, il y a 25 ans, le 3 mai 87, Dalida tenait parole. Et deux invités prestigieux pour parler de ces 25 ans, Christine Bouillot.
Oui, parce qu'on se pose cette question en s'apercevant que ça fait déjà 25 ans que Dalida, star éternelle, nous a quittés. Pourquoi ? Et pourquoi fascine-t-elle encore autant ? Et on est en ligne d'abord avec Max Guazzini. Bonsoir, Max.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir sur Sud Radio. Vous avez été l'attaché de presse de Dalida pendant toutes ces années. Aujourd'hui, vous ressentez quoi, si c'est pas indiscret, Max ?
L'attaché de presse, surtout un ami. Avant d'être attaché de presse, et j'étais très proche d'elle. Bah, écoutez, c'est une grande tristesse, on se dit 25 ans déjà. Tout à l'heure, j'étais au cimetière où j'aime une grosse gerbe de fleurs blanches, et donc il y avait beaucoup de monde autour de la tombe. Bah, c'est une infinie tristesse, voyez-vous. Mais par contre, quand je vois toutes les émissions qu'il a à la télévision, il y a encore une demain soir sur France 3 avec Daniel Lombroso, où j'ai participé d'ailleurs, j'ai même chanté dedans, mais c'est incroyable, quoi. 25 ans après, elle est toujours là, quoi, parmi nous.
Oui, mais Max, soyons très clairs, Dalida, 25 ans après, c'est festif, c'est joyeux, c'est fédérateur.
C'est tout à fait joyeux, fédérateur, et puis bon, surtout, il ne faut pas l'oublier, c'était une très grande artiste, une très grande vedette, et je crois qu'elle a duré pendant des années, quoi, et en plus, par-delà la qualité de l'artiste, c'est une femme extraordinaire.
Dalida, vous dites que c'est une femme extraordinaire. Expliquez-nous, vous qui connaissez bien Max Guazzini, ce monde du showbiz, de la chanson, etc. Oui. Comment se fait-il que personne, aucune grande chanteuse, n'ait pris sa place ou l'ait fait tout simplement oublier, peut-être ?
Ben, c'est-à-dire, elle était unique, quoi. C'est aussi une certaine époque, mais elle était tout à fait unique. Non, il y a eu d'autres chanteuses qui ont eu beaucoup de succès, il faut pas l'oublier, par la suite. Mais enfin, elle était unique, puis elle a traversé les générations. Elle a commencé dans les années 50, elle a fini à la fin des années 80, et chaque fois, elle a tenu l'eau de l'affiche en France et aussi à l'étranger. Moi, j'étais avec elle dans des stades à l'étranger, quoi. C'était assez impressionnant, quoi.
Star internationale, ne l'oublions pas, effectivement.
Elle a su s'adapter toujours, puisqu'elle a commencé l'époque du Bambino, puis il y a eu l'époque du twist, elle a su s'adapter du disco, puisque bon, elle était la reine du disco. Donc voilà, donc elle a toujours su être enfin un petit peu dans le vent, quoi.
Max Guazzini, alors on dit c'est une artiste qui nous fait chanter, qui nous fait danser encore, mais malgré tout il y avait une immense fragilité, une immense solitude aussi quand on lit l'histoire et ce qu'elle a vécu aussi, Dalida.
Oui, enfin fragilité, vous savez, des artistes sont des gens pas comme les autres, sont toujours des gens différents. Sinon, ils ne seraient pas artistes. Ils ne sont pas comme le commun des mortels, voyez-vous. Bon, il faut pas exagérer, puisque moi je l'ai connue heureuse, je l'ai connue tout à fait épanouie, mais là effectivement, comme tout le monde, des drames dans sa vie. Et puis à la fin, c'est vrai, moi j'ai pas analysé les raisons de son départ, mais bon, je crois qu'effectivement, elle a eu à la fin peut-être une certaine solitude. Mais la dernière année, vous savez, après le film qu'elle avait fait avec Youssef Chahine, Le Sixième Jour, elle s'est un peu coupée du monde. Mais néanmoins, je me souviens, une semaine avant, moi, j'ai dîné avec elle, elle était en pleine forme, elle était rayonnante, puis bon, ce long week-end du 1er mai a été fatal.
Ah, les fissures, parfois, les fissures, on ne les voit pas à l'intérieur. Max, on accueille David Lelay. Hello, vous le connaissez sans doute, auteur de plusieurs romans sur Dalida, Dalida d'une rive à l'autre, chez Payot. C'était en mai, un samedi, aux éditions Anne Carrière, qui est d'ailleurs sorti le 19 avril dernier. Bonsoir, David Lelay.
Bonsoir.
Alors justement, à Dalida, on en parlait avec Max Guazzini, il y avait quand même des fissures à l'intérieur. Hein. Il y avait Yolanda et il y avait Dalida.
Voilà, moi c'est ce qui m'a intéressé dans ce livre-là, qui n'est pas une biographie, qui est un roman, c'était de finalement expliquer un peu cette ambivalence entre les deux personnages. On a finalement d'une part la brune, Yolanda, cette petite égyptienne arrivée à Paris et en quête de gloire, et puis sa créature, Dalida, la blonde, solaire, triomphante. Et je crois qu'il y a toujours eu une sorte de contradiction et de mésentente entre ces deux femmes. D'ailleurs, elle-même disait « j'ai réussi dans la vie, mais j'ai raté ma vie ». C'était l'idée que Yolanda n'avait pas réussi là où elle, Dalida, avait réussi.
Ouais, Max Guazzini, il y a quand même quelque chose de terrible dans la vie de Dalida. Ces trois hommes se suicident, meurent.
Oui, enfin, vous savez, il y a eu beaucoup d'autres qui ne se sont pas suicidés, il ne faut pas exagérer. Puis, ça n'a aucun rapport avec Dalida.
Non, je ne dis pas que c'est un rapport avec Dalida. Non,
mais je veux dire, Luigi Tenco, bon, elle le connaissait à peine, quoi. Mmh. Donc, elle acceptait pas par amour de faire le festival de San Remo, mais enfin, bon, il y en a eu beaucoup d'autres, je vous signale au passage. Donc, il ne faut quand même pas exagérer, mais c'est vrai que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce qu'en sens que moi, je l'ai vue très, très heureuse avec Richard Saint-Germain. Elle a été avec lui pendant de nombreuses années, même si après, ça s'est fini comme ça s'est fini. Mais enfin, on ne peut pas dire qu'elle était toujours... Mais vous savez, encore une fois, c'était une artiste, et que je vous dis toujours, les artistes ne sont pas des gens comme les autres. Sinon, ils seraient partis. C'est vrai qu'elle avait une grande sensibilité. Et c'est vrai qu'il y avait en elle une certaine fragilité, indiscutablement, comme a dit la personne qui vient de parler. Mais bon, vous savez, dans la vie de tous les jours, on ne le ressentait pas forcément. Hein.
David Lelay, moi j'avais aussi une question à vous poser, parce que quand on regarde aussi la discographie de Dalida, on connaît tous les tubes, mais il y a aussi tous ces textes, toutes ces chansons graves, avec vraiment puissants aussi au niveau du texte et de la scène de Dalida. C'est vraiment quelque chose qu'on connaît assez mal finalement.
Oui, mais c'est vrai qu'on connaît toujours, voilà, comme disait Mistinguette, Monday Tuesday, des choses comme ça très festives, très joyeuses. Mais c'est vrai qu'on connaît moins peut-être le répertoire, je dirais, des poètes à l'époque où entre 67 et 72, Dalida vraiment est un peu Madone, où elle chante Ferré, Lama. Il y a des textes par exemple comme Ô Seigneur Dieu, qui est un texte extraordinaire. Il y a des chansons comme Non, elle chante aussi Mikis Theodorakis, la reprise évidemment d'Avec le Temps, Je suis malade, et qui donne effectivement une force et une puissance dramatique à Dalida, peut-être effectivement moins connue que le côté glamour, paillettes, etc.
David Lelay, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce roman. Hein. C'était en mai, un samedi aux éditions Anne Carrière, donc qui vient de paraître. Et merci à vous, Max Guazzini, également, d'avoir été avec nous ce soir sur Sud Radio. Et on va suivre évidemment les émissions consacrées à Dalida tout au long de ces jours-ci. Merci beaucoup.
Merci Christine. Dans un instant, l'info, Cyril Brioulet.
Jusqu'à 20h, Christine Bouillot, Philippe Moïsen.
On parle rugby, Christine, puisque demain commence la 25e journée de Top 14.
Oui, il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses à dire. On a déjà commencé à en parler. Et c'est tout de suite sur Sud Radio.
Et l'on accueille Serge Mias, l'un des entraîneurs du Biarritz Olympique. Bonsoir, Serge.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Demain, vous ouvrez le bal avec un déplacement du côté de Montpellier. Je dirais que ce n'est pas un déplacement facile demain soir, hein.
Non, c'est le moins qu'on puisse dire, surtout qu'ils font une fin de saison remarquable et qu'ils nous avaient battus au match aller en plus.
Ouais, Montpellier qui doit s'imposer pour être assuré des barrages. En clair, c'est ça.
Oui, peut-être, mais le Biarritz doit aussi s'imposer sur les dommages qui restent pour sauver sa saison et se maintenir en top 14.
Voilà, il y a ça aussi, il y a cette équation, parce que, eh bien, en cas de défaite, attention, parce que Bayonne va recevoir Agen à la maison, attention à notamment à Perpignan qui reçoit à Lyon. Autant dire que jusqu'au bout, il y a de la pression, Serge Mias. Hein.
Ben, ce championnat est très intéressant parce que, comme on le dit jusqu'au bout, il y a de l'intérêt, que ce soit en haut ou en bas. Quoi. Et nous, on est concernés par le bas, bien malheureusement.
Ouais, cette saison en Nancy, et pourtant, vous la finissez tambour battant. C'est ça aussi le paradoxe. Hein. Il y avait le problème des internationaux au début aussi. Hein.
Ouais, si on prend la phase retour, actuellement, on est quatrième. Il y a deux petits points de Montpellier sur la phase retour. Mais le problème, c'est qu'on avait pris beaucoup de retard. Donc, voilà pourquoi on est en difficulté. Bon, voilà, ça s'explique aussi par la Coupe du Monde, qui est une année particulière, mais peut-être qu'on n'avait pas anticipé ça. Donc, c'est des choses à méditer, à bien analyser pour ne pas reproduire ces erreurs.
Oui. Comment sont vos hommes à la veille de ce match?
Disons que depuis fin décembre, on est quand même sur une bonne dynamique, même si on a manqué un match à la maison contre Satouzin. C'était malgré tout un bon match, donc on a... En termes de résultats, en termes de qualité de jeu, je crois qu'on a répondu présent. Sauf qu'on joue avec la pression, et pas forcément la pression positive, parce que c'est celle du spectre de la descente. Mais bon, la Coupe d'Europe nous a aidé à rester en confiance, et de ce côté-là, on est optimiste pour la fin de saison. Même si ce sera pas facile.
Voilà, président, cette foutue pression, hein, qui peut soit vous canaliser, vous motiver, ou tout simplement vous anéantir dans votre effectivement dans l'effort qu'il y a à produire, mais du côté de Montpellier, vous craignez quoi et qui?
Ce qu'on craint, c'est la dynamique de la qualification, leur qualité collective, bon, et puis deux ou trois joueurs clés qui sont très importants chez eux. Hein. Mais bon, voilà, on va surtout s'occuper de nous, ce qu'on fait depuis 4 mois, et essayer de moins s'occuper de l'adversaire pour essayer de ne pas douter. Par rapport à nous, surtout.
Serge, quand on regarde le 15 de départ, on a l'impression que c'est un 15 entre guillemets. Il y a le challenge européen, la finale également, face à Toulon. Ça aussi, il ne faut pas l'occulter, ça peut sauver la saison.
Non, sauver la saison, c'est se maintenir. Après le dernier match, ce sera juste la cerise sur le gâteau qui peut amener plus, mais c'est surtout se maintenir. Quoi. Donc, on a 2 matchs aujourd'hui qu'il faut assurer. Mais ce qu'on vous disait, la Coupe du Monde, nos internationaux, on joue immédiatement et puis on les a mis à rude épreuve. Et là, ils commencent à fatiguer. Si ce n'est pas physiquement, c'est aussi mentalement. Quoi. Donc voilà pourquoi Emmanuel, depuis quelques jours, n'est pas avec nous. Et Yash sera remplaçant demain. Quoi.
Voilà, remplacé par Lesgourg demain. Donc on fait un petit peu souffler les hommes. Vous êtes sur la route ou vous partez demain matin?
Non, on part demain matin, avion.
Alors, Serge Millard, je profite de vous avoir au bout du fil aussi pour vous demander, on a parlé sur Sud Radio, on en parle beaucoup dans les journaux, etc., sur ce qui se passe du côté d'Agen. Vous comprenez cette décision? Vous en parlez beaucoup autour de vous? Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé? Ce conflit d'intérêts qui fait qu'on a écarté le duo d'entraîneurs?
Vous savez, je vais pas m'occuper, j'ai assez de m'occuper du VO. Je suis pas du tout ça. Bon, voilà, ça regarde les Agenais et personne d'autre.
Mais qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, vous trouvez que
ce que j'en pense ne regarde personne. Quoi. Je veux dire, je répète, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Je m'occupe de mon équipe. Après, c'est les problèmes Agenais, c'est que leurs problèmes. Quoi. Voilà, s'ils ont jugé ou s'ils ont pas.
Parce qu'hier, on avait le président de Tech 15 hein, qui disait c'est pas tellement que le problème Agenais, c'est aussi il va falloir faire attention à ce qui se passe dans l'univers du rugby. Et on voit bien que c'est un vrai dossier. Quoi.
Non, je crois pas. Pour connaître un petit peu les entraîneurs de ce milieu-là, je crois pas qu'il y ait d'arrière-pensée ou quoi que ce soit. Je n'ose pas y penser.
Oui, c'est ce qu'on se dit aussi. L'essence
de ce jeu, vous savez, elle existe. Si on n'est pas solidaire, on n'existe pas. On n'existe qu'à travers les autres. Hein, donc l'essence du jeu en elle-même fait que les valeurs qu'on revendique pour le rugby dont on parle beaucoup, je crois qu'elles existeront toujours.
Et on le souhaite, on l'espère beaucoup aussi.
Merci Serge Mias, entraîneur du Biarritz Olympique, d'avoir été des nôtres ce soir. Et bon match pour demain.
Merci.
Bon match, bonne soirée.
Merci Serge. Ciao, ciao. Bonne soirée. Montpellier-Biarritz, demain, on ouvre le bal de la 25e journée à 20h45. Ensuite, on suivra samedi Toulon-Toulouse. Tiens. Toulon, où était d'ailleurs tout à l'heure Nicolas Sarkozy, Toulouse, où est François Hollande. Bientôt, non. Perpignan, à 14h15.
Okay. Je pense qu'ils n'auraient pas regardé le calendrier.
Ils n'auraient pas regardé le calendrier. 14h15, Perpignan accueillera le Loup. Lyon, Brive, Union, Bordeaux-Bègles, un match qui sent la poudre et le soufre à 14h15, que l'on suivra sur Sud Radio. À Bayonne, Agen également, ça sent le soufre. On suivra cette rencontre à 14h15, toujours Castres, Clermont. Et puis à 16h15, autre rendez-vous sur Sud Radio, le Racing Métro face au Stade Français, qui se jouera d'ailleurs au Stade de France, Christine.
Vous avez oublié un rendez-vous, Philippe.
Lequel ?
Demain soir, 18h-20h.
On reviendra bien évidemment tout le sport, sur toutes ces rencontres et tout le reste de l'actualité sportive. On parlera basket, on parlera rallye féminin. Bref, beaucoup de choses demain soir, 18h-20h. Mais pour l'instant, on continue, Christine. Et Christine, moi, je vous emmène faire une petite balade. Je n'ai qu'un litre d'essence, mais nous allons parcourir 3771 kilomètres. C'est le record.
Chapeau.
C'est le record. Parce qu'en ce moment, sur le circuit de Nogaro, dans le Gers, se tient l'Éduc Eco. Pour en parler, Philippe Dolon est avec nous. C'est le vice-président de AD3E. C'est l'association pour le développement d'épreuves éducatives pour l'écomobilité. Monsieur Dolon, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Je le disais, 3771 kilomètres avec un litre. C'est possible, ça ?
Oui, c'est un record, en effet, avec un moteur thermique, des petits prototypes qui ont un peu la forme d'un cigare, qui parcourent 25 km sur un circuit automobile. Et par une simple règle de trois, on arrive à l'équivalence de leur consommation ramenée à des kilomètres parcourus avec un litre de carburant. Ça, c'est pour le carburant, mais aujourd'hui, ici à Nogaro, il y a eu un véritable événement, puisqu'avec le moteur électrique, avec l'énergie électrique, un prototype a réalisé un record du monde. Un record du monde de 1137 km parcouru avec un kilowattheure. Alors ça va vous paraître un peu compliqué, mais à l'heure où la voiture électrique est très à la mode, un kilowattheure, c'est 1137 km, c'est la traversée de la France avec un seul kilowattheure. Le kilowattheure, ça coûte environ 10 centimes entre les heures creuses et les heures pleines. Donc 10 centimes pour traverser la France, c'est la performance qu'on fait cet après-midi des étudiants de Polytechnique Nantes et de lycée La Jolifrie également à Nantes. C'est une performance tout à fait incroyable, mais bien réaliste, avec ce prototype Polyjoule, qui donc ramène cette performance à un niveau absolument extraordinaire.
Alors ça fait rêver, quand on a une voiture et qu'on fait le plein régulièrement, évidemment, quand vous nous dites ça, donc ce sont évidemment des prototypes, ce sont des étudiants, des jeunes chercheurs qui sont autour du circuit de ces voitures, on est d'accord ?
Tout à fait, c'est une filière très large,
très large.
Du collège jusqu'à l'enseignement supérieur.
Mais dites-moi, ces prototypes, après, ils ont une application pour nous, simples mortels, avec nos petites voitures dans les villes ?
Oh, écoutez, je vais vous dire deux choses. La première, c'est que si les bureaux d'études des grands constructeurs avaient besoin des élèves d'IUT, de BTS, voire même d'école supérieure, pour inventer quelque chose, on pourrait se poser des questions. En revanche, il y a deux choses. Ils ont besoin de têtes bien faites. Et ce genre d'épreuve est fait justement pour leur fournir qui les techniciens, qui les ingénieurs de haut niveau, chez les constructeurs. Et on en trouve aujourd'hui chez les grands constructeurs, chez les équipementiers qui ont participé à cette épreuve. Et puis il y a aussi des trucs, des choses que les étudiants étudient, regardent, imaginent. Cette année, on a un lycée dans l'Ariège, à Mirepoix, qui a imaginé un gazole dans lequel intervient la graisse d'oie. Oui, vous entendez bien.
Oui,
la
oui, on entend bien.
Ici dans Gers, vous savez bien que...
Ça fait sensation, je présume.
Ça fait sensation. C'est bien sûr, aujourd'hui, pas un constructeur va probablement utiliser la graisse d'oie un pétrolier, la graisse d'oie dans la composition de son gazole. Mais ici, ça a le mérite d'alimenter la recherche sur les graisses animales. Et ça fait buzzer, comme on dit aujourd'hui.
Alors, Philippe Delin, donc, je reformule ma question. Est-ce que ces jeunes, aujourd'hui, qui s'essayent autour de ces voitures, qui ont l'air de beaucoup s'amuser, aussi bien les jeunes que les grands d'ailleurs, qui les accompagnent. Mmh. Est-ce que ces jeunes, c'est aussi leur montrer qu'une autre façon de se déplacer est possible ?
Ah, tout à fait. Tout à fait, c'est l'écomobilité au sens large du terme. Ces épreuves existent depuis maintenant environ 25 ans. Au départ, c'était uniquement la consommation de carburant qui était en jeu. Aujourd'hui, c'est tous les concepts liés au développement durable qui sont concernés, donc l'écomobilité au premier chef. Et c'est pas étonnant s'ils utilisent toutes les sortes d'énergie possibles, le supercarburant, le gazole, le GPL, l'hydrogène, l'électricité, le solaire, tous ces types d'énergie renouvelables sont présentes sur le circuit de Nogaro ce jeudi et ce vendredi.
Philippe Deleon, je vais reformuler ma question. Quand je vois qu'on parcourt 3771 km avec un litre d'essence, qu'on parcourt 1137 km avec un kilowatt, est-ce que les grands constructeurs de ce monde ne se foutent pas un peu de notre gueule, pour ne pas dire autre chose? Pourquoi n'arrive-t-on pas à faire aujourd'hui une voiture qui parcourt autant de kilomètres avec si peu d'essence?
Je vous ai parlé de 25 ans d'épreuves de ce type. Je pense qu'en 25 ans, les constructeurs automobiles ont sérieusement tiré par le bas le niveau de leur consommation moyenne.
Oui, mais moi, je consomme encore 6 litres 100.
Combien ?
6 litres à peu près, 5 litres 8 ouais, à peu près.
5-6 litres, en voilà. Encore moins aujourd'hui. Ben, ça continue à être bas. Il faut dire que c'est, on parle bien de prototype.
De prototype,
hein. Oui, aussi. Petit cigare, je sais pas si vous connaissez la forme, c'est la forme d'un petit cigare à trois roues.
C'est super léger.
Profilé, hyper léger, ça fait une trentaine de kilos, c'est une pénétration, dans l'air absolument, extraordinaire, un CX, comme on dit, très bas, ça a plein de qualités, ça passe pratique le stop and go, c'est-à-dire que ça a le droit de faire, de couper le moteur, si vous voulez, à certains endroits, de jouer, c'est, toutes les voitures modernes aujourd'hui, au feu rouge, s'arrêtent. On a tous le stop, enfin, beaucoup de voitures modernes ont le stop and go. Eux, depuis 25 ans, ils étudient là-dessus le stop and go pour améliorer les consommations. Alors, bien sûr, sur 25 km, c'est ramené, absolument à quelque chose de minimal. Mais on va dans le bon sens. Et tous ces étudiants tirent, et leurs professeurs tirent dans le bon sens.
Vous me réjouissez alors, ça va.
Philippe Delin, ça dure encore quelques jours, le programme demain ?
Oui, bien sûr. Demain, c'était la première journée aujourd'hui, donc avec ces performances dont je viens de vous parler. L'épreuve continue demain à partir de 9h. On espère, et j'ai entendu votre météo, un peu les interviews des Diaro, la météo n'est pas très bonne sur Aquitaine et Pitié-Pyrénées et demain. Donc on croise des droits parce que si la piste est mouillée, eh bien nous, c'est pas comme en course automobile. Les prototypes ne sont pas roulés. Donc on espère que le temps va se maintenir et qu'ils pourront continuer à faire des performances et des tentatives mesurées, comme nous disons.
Donc aujourd'hui, on a battu un record du monde sur le circuit.
On a battu un record du monde et je peux vous dire qu'on en parle, vous les premiers et vos confrères aussi, c'est quelque chose qui marque.
1137 km avec un kilowattheure, Christine. Voilà. Merci beaucoup, Philippe Deleon, d'avoir été avec nous, vice-président.
Eh bien, merci
au plaisir. Merci à Dadé 3E, l'association pour le développement d'épreuves éducatives pour l'éco-mobilité. On va parler dans un instant de la presse. Et notamment, nous irons du côté de la rédaction de Sud-Ouest, Christine.
Oui, la une du lendemain.
Christine Bouillot, Philippe Moyzen, sur Sud Radio.
Et la une du lendemain, on prend la direction de Sud-Ouest.
Et Jean-Pierre Dorian est avec nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, à la rédaction de Sud-Ouest, demain, et à la une donc, du quotidien Sud-Ouest, on va bien sûr, je pense, parler de l'annonce de François Bayrou ce soir.
Oui, absolument. C'est l'info toute chaude du soir. Et on était parti évidemment pour parler du dernier grand combat à distance des
deux finalistes.
Des deux finalistes, voilà, puisque l'un est quelque part dans vos contrées, à Toulouse, François Hollande et Nicolas Sarkozy est à Toulon avec un envoyé spécial de Sud-Ouest de chaque côté. Mais là, François Bayrou vient en quelque sorte de leur voler la vedette, ou du moins de la donner de plus belle à François Hollande, parce qu'évidemment son choix de personnel de voter François Hollande tout en appelant le MoDem à ne pas
Se prononcer,
voilà. C'est évidemment l'événement majeur de la journée.
Vous diriez que c'est un changement de cap de la part de François Bayrou ?
C'est un pari, je pense, surtout de la part de François Bayrou. C'est le pari de... Enfin, c'est un pronostic personnel, mais le pari qu'il semble faire, c'est de tabler sur l'explosion de l'UMP. C'est parier sur la défaite de Nicolas Sarkozy et donc de l'explosion de l'UMP dans la foulée pour être encore un personnage majeur de la droite et du centre droit, et donc se garder en rôle dans la recomposition qui va suivre ce qu'il semble voir se dessiner comme la victoire de François Hollande. C'est une évidence, parce que c'est la carte qu'il joue, non pas parce que il se serait à ce point rapproché de la gauche qu'il deviendrait un affilié du Parti socialiste, mais plus parce que il considère que le rejet anti-Sarkozy le pousse lui jusqu'à se donner le droit de voter pour la gauche qui n'a a priori pas son camp, quoi, tout simplement.
Et est-ce que, alors qu'on le donnait un tout petit peu perdu au niveau de la suite, hein, pour la politique, est-ce que ça le remet aussi au centre du jeu?
Je pense que ça le remet beaucoup plus clairement au centre du jeu que s'il était resté neutre, parce que ça aurait fait de lui une espèce de nid qui aurait fini par lasser. Ça le remet aussi beaucoup plus que s'il avait appelé à Nicolas Sarkozy, ce qui aurait été étonnant. Et en plus, ça le remet d'autant plus parce qu'il faut regarder les choses le plus objectivement possible. Ce qu'il vient de faire est quand même ressemble assez au personnage que s'est fabriqué François Bayrou au fil du temps ces dernières années. C'est-à-dire que c'est un geste très courageux politiquement. C'est-à-dire qu'il faut oser quand on est ancien membre de la droite classique, d'aujourd'hui figure, on va dire, du centre en France. Oser dire dans un combat droite-gauche « je vais voter pour le candidat de gauche » deux jours de l'élection, c'est un postulat courageux, surtout avec l'argumentation qu'il donne. Hein, et c'est essentiellement autour de les reproches sur la politique et les prises de position sur l'immigration de Nicolas Sarkozy. Donc c'est une manière pour lui, même si c'est un pari risqué très localement pour lui, parce que il a quand même un poste de député aussi à défendre et il aura besoin des voix de droite pour le garder dans son Béarn. Mais à l'échelon national, c'est courageux et c'est un pari, mais qui lui ressemble assez. Je pense que c'est au-delà du pari, ce qu'on peut, à mon sens, clairement dire, c'est que il reste à la hauteur du personnage qu'il a essayé d'incarner ces derniers temps. Quoi. Voilà, c'est celui qui est arrivé en troisième position là, des dernières présidentielles en 2007. Quelqu'un qui avait rassemblé près de 18% des voix en France.
Oui, il est en dessous des 10 là. Ouais.
Il garde avec ça une stature, en tout cas, de quelqu'un qui sait
compte,
se démarquer.
Voilà. Qui compte. Jean-Pierre Dorian, plus léger. Demain, dans le Sud-Ouest, on sait qu'il y a ce fait divers autour de cet étudiant bordelais, mais votre site internet, là, ce soir, sort cette information et surtout les réserves des supporters des Girondins de Bordeaux suite au nouveau maillot des Bleus Marines. Qu'est-ce qui se passe? On dit qu'on va bientôt devenir des majorettes.
C'est une petite polémique, voilà, comme il en existe quelquefois quand il y a des nouveaux choix qui sont souvent des choix, on va dire des choix marketing, voilà. Donc il y a une petite polémique qui remet les Girondins sur le devant de la scène, surtout qu'ils sont en train de souffrir sportivement une fin de saison un peu plus euphorique qu'elle n'était partie pour l'être, parce que leur victoire hier soir face à Rennes les a remis un peu en course pour les trois dernières journées du championnat avec une petite lueur d'espoir pour retrouver l'Europe. Donc du coup, les supporters, peut-être que c'est ça qui les a de nouveau titillés, et effectivement ils critiquent le look de ce nouveau maillot qui leur paraît curieux, voilà. Mais bon, ça c'est ce sont des choix marketing. Alors c'est pas le maillot principal, le maillot principal il reste classique avec le scapulaire, mais c'est toujours pareil, c'est toujours des petites polémiques qui naissent quand apparaissent des nouveaux maillots. Il y en a déjà eu, Lyon a eu cette polémique-là en son temps, les clubs de rugby en ont assez régulièrement quand ils tentent des paris quelquefois osés, voilà, là c'est autour des Girondins.
Pas mal avec le Stade français, c'est vrai. Justement à propos de rugby, Jean-Pierre Dorian, il y a cette affiche demain soir du côté de Montpellier qui reçoit Biarritz, on en parlait il y a quelques instants avec Serge Mias.
Oui, c'est une belle affiche, a priori, le Biarritz Olympique a assuré l'essentiel lors des 4 ou 5 dernières journées en sauvant son avenir, même si mathématiquement ils ne sont pas totalement assurés. Enfin, il faudrait vraiment un cataclysme, surtout qu'il y a plusieurs clubs qui se battent derrière, dont quelques clubs de notre zone de diffusion aussi, parce qu'il y a l'Union Bordeaux-Bègles ainsi que Bayonne qui sont hautement concernés par la lutte pour le maintien, beaucoup plus que de les Biarritz désormais. Donc c'est une belle affiche, parce que les Biarrots qui sont donc sur une phase positive, qui vont jouer la finale des challenges européens pour une place qualificative pour la Coupe d'Europe l'année prochaine face à Toulon. On sent qu'ils ont derrière la tête d'aller chercher un petit quelque chose, d'aller embêter les Montpellierains qui eux jouent.
Bien sûr.
La victoire pour les barrages. Ouais.
Merci beaucoup Jean-Pierre Dorian, chef des Infogénés à Sud-Ouest. Donc c'est à lire demain évidemment chez nos confrères de Sud-Ouest. On vous souhaite une bonne soirée et donc à lire demain dans les kiosques. Merci
Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre Dorian. Bon, il est parti déjà. Voilà. Dans un instant, le Zap. Vous n'avez pas écouté Sud Radio, vous n'étiez pas là aujourd'hui? Vous venez de rentrer? Vous allez tout savoir.
Ménard en liberté, c'est tous les matins dans la matinale de Pascal Bataille, l'invité politique de Robert Ménard, Henri Guénaud, le conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Pour lui, François Hollande se trompe dans sa conception de l'État.
Chaque fois que François Hollande a parlé de sa conception de l'État, puis à un moment, il nous a asséné une très longue tirade sur la manière dont il voyait l'exercice de sa fonction, si jamais il était élu. Et là, ça aurait suffi à me faire voter pour n'importe qui d'autre.
Pourquoi ?
Parce que c'est une conception de l'État qui n'est pas la mienne. C'est une conception de l'État dans laquelle le président de la République ne fait plus rien.
Autre invité de Robert Ménard, Bernard Cazeneuve, ce matin, porte-parole de François Hollande. Bernard Cazeneuve qui commente la prestation de son candidat à la télé.
François Hollande était offensif. Il était dans la volonté de ne laisser aucune contre-vérité s'imposer dans le débat. Et nous avons vécu quand même des semaines et des mois de campagne avec un Nicolas Sarkozy qui ne voulait pas assumer son bilan et s'employer à mettre la poussière sous le tapis. Hier, la poussière est apparue plus épaisse que le tapis pour ce qui concerne son bilan.
Un Cardoz, trois quarts libre, c'est tous les matins avec Michel Cardoz qui revient lui aussi sur ce débat présidentiel. Il s'interroge sur d'autres éléments en rapport au comportement des deux candidats.
Combien de fois Nicolas Sarkozy s'est gratté le nez ? Combien de fois a-t-il eu ce mouvement d'épaule si particulier ? Et quelle histoire a-t-il raconté avec son corps ? François Hollande a-t-il dessiné un moulinet avec sa main droite pour convaincre et rassembler ? Aura-t-on observé sa lèvre dite en huître, ce qui est un signe de maîtrise du discours et de contrôle permanent, selon les spécialistes ?
Sur Sud Radio, 10h, 12h, Karima Sen, son invitée Carole Tessier, c'est la sœur de ce jeune étudiant à Bordeaux, disparu depuis vendredi soir. Elle fait le bilan des recherches.
C'est difficile aujourd'hui, hein. Ça fait plus de 5 jours, donc... Les forces de l'ordre se sont quand même énormément mobilisées. On a fait beaucoup de recherches dans la Garonne, puisqu'elle est à proximité des lieux, du dernier lieu où on l'a vu, et qu'il y a eu quelques accidents ces derniers temps. Ces fouilles n'ont pour l'instant rien donné, aucun élément, pas un vêtement ou une chaussure de retrouver. Alors c'est vrai qu'on privilégie la mauvaise rencontre.
Dans le 18-20, focus sur ces lycéens qui sont déjà dans les préparations du bac plus d'un mois à l'avance et pas toujours facile de rester concentré.
Mon problème, c'est la lenteur, donc c'est vrai qu'en groupe, on peut un peu se caler sur le rythme des autres. Et ça nous permet de réviser un peu tout le programme, de poser des questions à un professeur, quoi, parce que c'est vrai que seul chez soi, on bloque et on reste longtemps. Quoi, donc.
Parce que chez moi, j'arriverai pas à travailler tout seul, parce que je suis distrait. J'ai l'ordinateur à côté, j'ai plein de choses à côté, du coup je peux pas me concentrer que sur ça.
Moi j'ai besoin des profs pour la méthode, quoi, pour vraiment approfondir les sujets qu'on aborde au lycée. Parce qu'au niveau des connaissances ça va, mais c'est vraiment pour avoir une méthode structurée et tout ça.
Et bon courage, si vous préparez votre bac. Le 18-20 c'est terminé, merci Christine, rendez-vous
merci.
Lundi.
Merci Philippe.
Avec votre acolyte Jean-Louis Verger.
Et oui, et demain on vous retrouve évidemment 18h, 18-20 pour
tout
les
le
sports.
Tout le sport, allez ça marche, très très bonne soirée.
Bonne soirée.